Guillaume Dulude, bonjour.
Salut.
Bonne année.
Bonne année, toi aussi.
Est-ce que tu as pris des résolutions, Guillaume?
J'en ai beaucoup et ça passe beaucoup par les projets. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'ai tellement de projets qu'il faut que je fasse l'exercice toujours de me dire, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, puis comment je vais me faire plus plaisir, puis qu'est-ce qui va me donner le plus d'énergie. Fait que ma résolution, c'est de centrer mon énergie sur mes projets prioritaires.
Gestion des priorités.
Ouais.
Guillaume, lorsqu'on te rencontre ou encore lorsqu'on assiste à tes conférences, souvent ce qui frappe, c'est ce que tu affirmes, on pourrait avoir une bonne communication avec à peu près n'importe qui.
Oui.
Or, souvent, lorsque l'on pense à notre voisine, à notre propriétaire, à notre belle-sœur, à notre patronne, on se dit peut-être pas si évident que ça.
Oui.
Et pourtant, tu es la preuve vivante que c'est possible. Lors de tes voyages, tu as réussi à créer des relations signifiantes, une saine communication avec une tribu cannibale qui ne parlait évidemment pas français, pas anglais, pas de langue connue, du moins que l'on connaît.
Oui.
Quelle qualité, quelle attitude on doit mettre de l'avant? Et là, bien sûr, on ne parle pas d'être en contact avec une tribu cannibale, mais dans notre vie de tous les jours pour commencer à toucher cette saine communication-là.
Moi, je pense que tout le monde est intéressé à mieux communiquer. Tout le monde sait que l'écoute, c'est important. Le langage non-verbal, c'est important. Sauf que c'est très difficile à faire dans le quotidien. Et que ce soit avec notre voisin, avec nos parents, avec un boss qui est difficile, à un moment donné, là, on prend un mur important. Et souvent, on se rend compte que soit que l'écoute n'était pas là, j'aurais pas dû dire telle affaire, faire telle chose, mais ce qui manque principalement, ce qui manque toujours dans toutes les personnes que je coach, le trois quarts des personnes, c'est qu'il manque un but clair. Une communication qui n'a pas de but clair, automatiquement, le cerveau prend un autre but par défaut qui est l'évitement du rejet.
Ouais.
Okay. Mm-hmm. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que si, avant une communication importante, tu n'as pas fait le travail personnel de clarifier ce que tu veux, concrètement, pourquoi, comment, tu n'as pas fait ton travail personnel, automatiquement, ton cerveau va se trouver un deuxième but qui est minimiser le rejet par l'autre personne. Et c'est là où l'écoute arrête. On dit des choses qu'on ne veut pas. Les émotions, ils commencent à escalader. Donc, le premier travail, c'est se trouver des objectifs importants.
Mais j'ai l'impression que souvent, c'est qu'on ne sait pas ou que l'on ne s'attend pas à avoir une communication importante. On fait la vaisselle avec notre chum, tout d'un coup, on aborde un sujet et là, oh, ça devient important, le ton monte, on chicane, on s'entend pas, il y a de la discorde,
ouais.
Parce qu'on n'a pas prévu que là, on aborderait ça. J'ai l'impression que c'est souvent là que ça dégénère.
Oui, souvent, quand c'est pas une habitude de communiquer puis faire notre travail personnel, parce que c'est beaucoup une question de travail personnel, savoir ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe avec nous, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, ce qu'on veut, faire notre propre travail. Quand c'est flou, bien, on se fait surprendre par les sujets de conversation. Ça arrive un petit peu tout le temps, puis c'est pas grave. Mais l'important, c'est de se dire, OK, là, il s'est passé quelque chose là, et il faut revenir à, si je peux dire, la planche à dessin. Il faut retrouver qu'est-ce qui s'est passé là-dedans pour nous. Alors, c'est important de ne pas utiliser la communication pour réparer quelque chose entre deux personnes.
Ah, okay.
Souvent, la communication, les habiletés de communication sont associées à « faut régler un problème ». Ça ne peut pas être comme ça, la communication. La communication, il faut que ça soit conçu, que ça soit fait et abordé comme un outil de développement, donc une atteinte d'objectif, puis une atteinte d'objectif commun, d'où la relation. Malheureusement, on utilise trop la communication pour réparer des problèmes.
Mm-hmm.
Donc, automatiquement, ça vient avec le fait qu'il ne faut pas trop saillir. Fait qu'on on utilise la communication pour saillir moins puis stuffer plus. Le cerveau, il haït ça, il n'est pas conçu pour communiquer comme ça. C'est le premier problème dans la communication. Puis c'est pourquoi les gens se disent, ben écoute, je pense que je suis poche là-dedans. Je ne suis pas vraiment bon, ça ne marche pas vraiment. C'est que l'objectif global, la structure globale n'est pas motivée par la bonne direction.
Mm-hmm. Ça pourrait être quoi, des buts à vouloir atteindre dans une saine communication?
Il faut que ça soit des buts en premier personnels.
OK.
C'est-à-dire, il faut dire, premièrement, c'est en lien avec comment on aborde la vie. C'est-à-dire, la vie, ça sert à vivre des choses positives. Ça sert juste à ça. La vie, c'est un genre de giga-buffet. Puis là, t'as faim. Puis là, tu choisis. Mais il faut que tu aies quelque chose dans ta tête que tu veux imaginer, que tu veux vivre. Il faut que tu te dises, moi, la vie, c'est des cadeaux que je veux. Si tu ne veux pas de cadeaux, tu vas communiquer pour éviter le rejet. Donc, on maintient un système anxieux puis un système relationnel qui est globalement anxieux. Et donc, on fait comme si on est poche à communication. Non, on est poche pour aborder la vie même. Ouais. On n'a pas assez de fun, on n'a pas assez de rêves, on ne se donne pas assez de cadeaux, on se dit toujours non, on ne se dit pas assez de oui. Donc, c'est ça le principal problème, mais c'est sûr que ça se ramasse dans le goulot d'étranglement de la communication. Ouais. Mais c'est parce que la communication n'est pas faite pour réparer du stock, c'est faite pour développer du stock.
Oui, mais Guillaume, la peur du rejet, c'est dès la naissance. Hein. Mmh. On va pleurer, on va faire des sourires à nos parents pour qu'ils nous nourrissent, nous changent, nous protègent, nous réchauffent.
Oui.
On fait comment pour renverser ça?
Il faut que le système de go, c'est-à-dire le système de motivation dans le cerveau, il y a deux systèmes, le go et le no-go. Le go, c'est le système de motivation, émotion positive vers un but. Et le no-go, c'est tout ce qui est anxiogène.
Mm.
Okay? Donc, tout ce qui est rejet, c'est, ça crée du no-go, ça crée de l'anxiété.
Ben
donc,
oui.
Le but, c'est d'avoir une balance qui est supérieure sur le go que le no-go. Si ton no-go est trop faible, si ton no-go il est trop fort versus ton go, automatiquement, ça va être difficile. Donc, l'objectif, c'est pas de pas avoir peur d'être rejeté. C'est sûr, on a toujours peur d'être rejeté. Ça fait partie même de l'humain. Moi, j'ai peur d'être rejeté. J'ai peur d'être rejeté maintenant, puis d'être poche, puis de dire des choses pas intelligentes. Mais j'ai un but à l'intérieur de ma conversation ici. Par exemple, je suis motivé à faire quelque chose qui est important pour moi, et ce go-là l'emporte. C'est une question de balance.
Okay.
La plupart des gens ont une conscience trop faible d'eux-mêmes pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Ils savent même pas. Fait que, comme ils ne savent pas, ils se disent, ben, le cerveau, par ricochet, dit, ben là, je vais minimiser les dangers, je vais minimiser le rejet. Et donc, ça crée plein de problèmes de communication. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des objectifs importants pour soi, puis d'être déterminé, coûte que coûte, à vivre des choses le fun qui nous ressemblent. Puis on n'a pas besoin de demander la permission à personne. C'est notre propriété, ces cadeaux-là.
Oui. Je t'écoute, je t'entends, et ce que je saisis à travers ça, c'est que d'atteindre une bonne communication, une saine communication, ça peut nous aider à gérer notre anxiété. Est-ce que
oui.
ça pourrait avoir d'autres bienfaits sur notre santé globale?
Oui. En gros, là, c'est pas si compliqué que ça théoriquement. C'est que l'anxiété arrive quand notre impuissance est trop élevée. L'impuissance, c'est quand on veut surmonter quelque chose, mais on n'a pas l'outil. Automatiquement, l'impuissance arrive. Plus on a d'outils de communication, de stratégies de communication, moins l'impuissance arrive parce qu'on a toujours une façon d'y arriver. Ce qui fait en sorte que l'anxiété reste relativement basse. Et c'est correct, avoir une certaine dose d'anxiété, c'est correct, c'est stimulant. C'est juste que quand on tombe en impuissance, l'anxiété est trop grande. C'est-à-dire qu'il nous manque des outils. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plus d'outils pour avoir une impuissance qui est plus basse.
Mm-hmm.
Si l'impuissance est trop élevée trop longtemps, la sérotonine s'effondre dans le cerveau.
Ah oui.
Et c'est là où les systèmes dépressifs, les systèmes anxieux, l'estime de soi s'écrasent. Quand la sérotonine s'écrase, c'est là où on prend par exemple des antidépresseurs, on est en dépression, et les antidépresseurs, ça sert à augmenter le niveau de sérotonine.
Oui.
Mais on n'est pas obligé d'avoir des pilules pour ça. On a besoin d'avoir plus d'outils. Plus d'outils veut dire plus de puissance et non pas de l'impuissance. Donc, les émotions négatives en général restent très stables.
Plus de puissance, moins d'anxiété.
Oui.
Lorsqu'on est en contact avec de jeunes enfants, on se rend compte que la communication peut être aussi beaucoup liée à la gestion des émotions. Un enfant qui fait une crise, souvent, c'est un enfant qui a été incapable de dire « je suis fatigué, je suis en colère,
oui.
je suis triste ».
C'est ça.
Bon, évidemment, si nous, on maîtrise ça, on pourra aider nos enfants, on y reviendra peut-être plus tard. Mais tout ça pour dire qu'en plus, ça peut nous aider à bien gérer nos émotions parce que même à 35, 45, 55 ans, c'est pas toujours facile de gérer ce qu'on ressent à l'intérieur.
Oui, et ça, c'est un autre, il y a un autre mythe en psychologie qui est la gestion des émotions. Tu peux pas gérer une émotion, c'est impossible. ça se fait pas, c'est impossible. C'est mathématiquement, c'est physiquement, cognitivement impossible.
C'est rare que l'on entend ça, Guillaume.
Bien, c'est qu'en psychologie, il y a encore des croyances un peu psychopop, même parmi les psychologues, là, puis mon Dieu, je vais me faire tirer des roches en sortant d'ici, mais c'est ça, la réalité, ça ne se gère pas une émotion. C'est-à-dire, les émotions, c'est une information, mais c'est juste que parce qu'on n'a pas, on n'apprend pas les bons outils, c'est rendu qu'on a peur de ces émotions-là, puis notre travail sert juste à diminuer les émotions, alors que pas du tout, ça, c'est un indicateur. Mais si on ne sait pas comment utiliser ça, l'indicateur continue à monter jusqu'à temps que ça nous écrase.
Ah oui, oui.
Donc, la détresse, ce n'est pas une émotion négative. Une émotion négative, c'est une information comme n'importe quelle information émotionnelle. C'est juste qu'elle continue à monter parce qu'on n'a pas les outils et on ne s'y attaque pas de la bonne façon, on ne les utilise pas de la bonne façon stratégiquement, ce qui fait que là, c'est rendu corrélé avec de la détresse. Mais une émotion négative, ce n'est pas de la détresse. C'est après. C'est quand on ne sait pas quoi faire avec ça.
Donc, à la base, une émotion n'est ni positive ou négative?
C'est-à-dire qu'il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives, mais dans la vie, c'est tout positif. Ouais. Ce qui est positif, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu en comprends? Puis comment tu gères ta vie avec ça? C'est comme la faim. La faim, c'est une légère douleur. Mais comme on le sait où trouver la bouffe, on sait que cette sensation-là n'est pas épeurante, c'est juste que j'ai faim, puis bon, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est la même chose qu'une émotion. Tu ne dois pas avoir peur de ça, mais c'est juste qu'il y a comme un genre de gros flou autour des émotions, comme si c'est comme quelque chose qu'il faut juste relaxer, il faut respirer, il faut se calmer. Il ne faut pas se calmer, il faut faire quelque chose, il faut avoir plus de fun. C'est ça le virage de la psychologie actuellement. C'est mm-hmm. dire, dans le fond, c'est pas ça pantoute. On n'a pas à se calmer les nerfs, on a augmenté notre plaisir.
Ouais. Guillaume, lors d'une conférence TEDx Montréal présentée début novembre, vous parliez de certaines choses qui... Tu parlais, on se tutoie, de choses qui peuvent nuire à la communication, dont le split. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, c'était une conférence en anglais.
La tension divisée.
Oui, voilà, qui arrive souvent. C'est-à-dire, on se parle, mais à un moment donné, je pense soit à ma liste d'épicerie ou à ce que je vais dire, il me trouve-tu assez intéressante. Et là, tout d'un coup, on n'écoute plus l'autre, on est dans notre tête. Ça nuit à une bonne communication.
Oui, et c'est visible. C'est-à-dire qu'une personne en face de soi va être capable de le détecter, consciemment ou pas, en moins d'environ 10 millisecondes, parce que les mouvements des yeux sont tellement rapides et petits qu'on est capable de détecter où va l'attention. Et donc, quand notre attention se divise, c'est parce que soit notre but n'est pas réellement clair, il n'est pas assez clair, le but de notre conversation, ce qui fait qu'il y a un but interne qui est plus fort, qui va tirer notre attention, qui va diviser notre attention dans notre tête et la diviser entre ce que l'autre dit et soi. Donc, ça, c'est quand notre but n'est pas assez clair. Aussi, si le but n'est pas assez clair, ça va augmenter notre anxiété parce qu'on va avoir peur d'être rejeté.
Mm-hmm.
Ce qui fait que dans notre culture, pour ne pas être rejeté, il faut dire des bonnes réponses. Donc, c'est une culture très scolaire. C'est-à-dire, si je dis quelque chose d'intelligent, je vais être moins susceptible d'être rejeté.
Mm-hmm.
Donc, on prépare nos réponses à l'avance pour minimiser le rejet.
Ouais.
Donc, ça crée aussi une attention divisée.
Oui. Et puis après, on essaie de patauger là-dedans.
Oui.
Est-ce que c'est possible de toujours avoir cette attention très ciblée, très attentive? Je veux dire, il y a des jours où on est moins bien que d'autres. Bon, évidemment, vous allez me parler encore, j'imagine, du but qui doit toujours être là. Mais il y a des journées, j'imagine, on est un petit peu moins en forme. Ça peut arriver.
Absolument. L'attention, ça peut être parfait. Puis moi, il y a des fois où je suis en split total. Là.
Mm-hmm.
Correct. Je veux dire, il y a des conversations, des relations que c'est moins important que d'autres. Et donc, ça nécessite moins d'énergie cognitive, moins d'attention, moins de qualité, moins de focus. Et c'est correct. On ne peut pas être à 100% tout le temps.
Mm-hmm.
Par contre, quand c'est le temps d'avoir un talk fort, qui est puissant, qui est porteur, avec un enjeu important, avec une relation importante, c'est là que ça prend des outils. On ne peut pas faire la même chose que quand c'est moyennement important ou comme on fait d'habitude. Ça prend quelque chose de plus. Donc, c'est vraiment une question de gradient. C'est comme de la vitesse. En auto, tu peux aller à 20 km/h, mais tu ne peux pas aller qu'à 20 ou qu'à 200. Ça prend un contrôle là-dessus.
Mm-hmm. Souvent aussi, on a certaines béquilles.
Oui.
On va faire peut-être à des endroits un peu moins appropriés. On va tenter de camoufler peut-être ce split-là ou cette attention divisée-là.
Mm-hmm.
J'imagine que ça aussi, c'est très... on peut le détecter là, assez aisément.
Oui, pour minimiser le rejet, quand on réfléchit en même temps qu'une autre personne parle, eh bien, notre attention divisée va changer les mouvements oculaires. Et on essaye de le camoufler un petit peu, mais on est toujours en retard parce que le système de camouflage est tellement grossier que tout le monde a tout vu. Là. C'est comme tellement évident, mais dans notre culture, on fait semblant qu'on n'a rien vu. Notre cerveau, il l'a pas vu. On fait comme si c'est correct, puis on continue de parler, puis tout ça. Puis à la fin, on se serre la main, puis on fait « OK, ben c'était le fun, fait qu'on va se revoir », puis on se revoit pas pantoute, parce que ça n'a absolument pas passé, parce qu'il y a eu trop de manquements, il y a eu trop de fissures à l'intérieur de la communication, ce qui fait que toutes les petites compensations qui disent « Oh oui, je suis là », mais si tes yeux... que tu ne peux pas contrôler consciemment, envoie les messages que ton attention est divisée, mais ça ne marche pas.
Ouais. Mais on ne regarde pas toujours dans les yeux lorsqu'on communique. Nos regards bougent, on regarde un peu à l'extérieur, autour de soi. C'est OK, ça?
Ça dépend.
OK.
C'est quand tu écoutes, ça prend toujours un contact visuel.
OK. Okay?
Plus hochement de tête, plus OK. Fait que ça prend une modalité audio, une modalité visuelle de hochement de tête. C'est, un visage fixe, ça se peut pas, ça, lors de phase d'écoute. OK. Mais quand tu parles, c'est pas normal de directement regarder 100% du temps à la personne. Parce qu'il faut aller recruter les idées que tu veux partager et ça nécessite de regarder ailleurs de temps en temps. Puis après, se revenir dans les yeux. On s'en va ailleurs, on revient dans les yeux. Donc, pendant qu'on parle, le contact visuel est différent que quand on écoute.
Maintenant, bon, on a parlé de ce qui peut nuire à la communication. Maintenant, des outils écoute active, on entend ça souvent.
Oui.
Bon, on vient un petit peu d'en parler, Guillaume, hocher la tête, faire oui-oui, bon, avoir un visage animé. Est-ce que c'est ça, une écoute active?
Oui, sauf que si ce n'est pas chargé d'un objectif important et d'un goût d'être avec l'autre, il y a quelque chose qui va lâcher à un moment donné. C'est juste une question de temps. Et souvent, pour les enjeux bien, bien importants, c'est des conversations qui sont assez longues. C'est des 30 minutes, des 1 heure, des 2 heures de conversation. Mais les gens se rendent même pas là parce qu'après 15 minutes, ils se disent « Coudonc, ça va aller de pire en pire », alors que pas vraiment. C'est juste qu'il y a des courbes émotionnelles qu'il faut vivre à l'intérieur des conversations. Mais si on ne sait pas comment ça va finir, on se dit « Bien là, on va arrêter là parce que ça va aller de pire en pire.
Ouais. »
Donc, on arrête la conversation au pire moment. Donc, on encode dans l'amygdale cérébrale une émotion négative en lien avec une personne importante, en lien avec un sujet important. Fait qu'on vient de contaminer relations et sujets importants parce qu'on est sorti trop tôt d'une communication. Donc, moi, ma recommandation, c'est écrire. Avant une conversation importante, faut écrire, écrire, écrire. Écrire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ça vient d'où ce qui s'est passé dans ce sujet-là que tu vas aborder? Pourquoi? C'est quoi les objectifs futurs? C'est quoi que tu veux vivre avec l'autre? En quoi c'est important? Si ça, c'est pas clair, on jase dans le vide. Le cerveau va juste essayer de se sécuriser en évitant le rejet. Tu pourras pas écouter, tu vas être en split en 2 secondes. Il y a plein d'erreurs qui vont arriver. Donc, la première affaire, et que les gens, ça leur tente pas souvent de se préparer, mais il faut se préparer. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon. Mais moi, j'ai des conversations importantes, puis il faut que des fois, j'écris 4, 5, 6, 7 pages juste parce que c'est important pour moi, pas pour l'autre. Je veux savoir pourquoi je m'en vais consacrer cette énergie-là avec cette personne-là. C'est parce que moi, je veux me gâter dans la vie. Et là, il faut clarifier des choses.
Oui, mais c'est souvent, si on veut aller négocier une augmentation de salaire, souvent, on va se préparer, justement, mais lorsqu'on parle avec notre conjoint, notre blonde, notre mère, mais là, souvent, on pense pas à ça. Mais on pourrait ramener ça au même point, là, si je comprends bien.
Toute conversation importante doit être préparée, clarifiée. Une augmentation de salaire, là, les gens se préparent même pas assez pour ça. Ils se disent, ben regarde, un compétiteur est payé ça, j'ai fait telle affaire, je suis rendu à telle affaire. Mais c'est pas ça une préparation, c'est pas puissant.
Mm-hmm.
Ça crée pas assez, c'est pas ça qui va créer ton influence. Il y a d'autres outils, d'autres systèmes qu'il faut mettre en place dans notre préparation. Et se préparer, c'est tout un art, là, se préparer une communication.
Mm-hmm.
Et toute conversation importante nécessite une préparation.
Guillaume Dulude, commencer 2016 avec toi était formidable. J'aurais envie de poursuivre ça, peut-être les auditeurs également, www.communicationpsychom.com.
Oui.
Parce que, bon, je sais que tu es booké là, jusqu'en 2017, là, mais quand même, tu accompagnes des gens, tu coaches des gens à savoir mieux communiquer, entre autres choses. Et j'imagine que c'est un petit peu les discussions que tu as avec ces gens-là qui te consultent.
Oui.
Également, on peut voir le film documentaire Tribe.
Tribe n'est pas tourné, c'est une fiction.
Ah, c'est une fiction. Non, je pensais qu'on pouvait le voir. Je suis mélangée.
Non, mais j'en ai fait un autre sur les tribus cannibales, purement cannibales. Mmh. Celui-là, il est à Canal D. Fait que lui, on peut le regarder.
On peut le visionner.
Ouais.
Parfait. Et également voir cette conférence TEDx Montréal sur YouTube. On mettra toutes ces indications sur notre site. Guillaume Dulude, un plaisir de communiquer avec toi. Merci beaucoup. Bonne année.
Mais merci à toi.